Alors, je me souviens, on était au week-end de rentrée et j'étais en train d'admirer les travaux de rénovation qui avaient été faits juste avant le lancement de l'année. Donc, merci encore à l'équipe qui a fait du très bon boulot. Et à cette occasion, je découvre les différents cadres qui viennent agrémenter la nouvelle décoration. Je parle de ces cadres que vous voyez derrière vous là. Il y en a qui disparaissent. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils tiennent pas ou parce que le sujet a été traité. Mais en tout cas, à l'époque, il y en avait beaucoup. C'était des thématiques et des versets qui devaient être au service d'un verset marquant qu'on avait retenu qui était « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Jean 13, verset 25. Alors je sillonne la salle, découvrant chacun des versets. Pardonnez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. C'est tellement de beaux passages, de beaux messages que l'on doit s'efforcer de mettre en pratique, avec l'aide du Saint-Esprit, bien entendu, mais pour vivre cette réalité de Jean 13 au sein de notre assemblée. Mais je dois avouer aussi que derrière cette découverte des différents cadres, mon esprit se demandait sur lequel de ces sujets j'allais tomber et sur quel de ces sujets j'allais devoir intervenir un dimanche matin parce que Paul nous avait avertis en disant, je vais vous positionner sur chacun des thèmes. Alors vous savez, c'est un peu comme quand on est dans l'attente du sujet sur lequel on va tomber le jour des examens. Alors j'attendais fébrilement le verset sur lequel on allait se pencher aujourd'hui. Alors en transparence, j'avais des petites préférences. Hein. Vous savez, c'est un peu normal. Priez pour les uns pour les autres, c'est sympa. Encouragez-vous les uns les autres, c'est sympa. Mais le tableau Excel de Paul en a décidé autrement. Ce sera soumettez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns les autres. C'est un peu comme à Motus, vous tirez la boule noire là. Hein, voilà. Voilà. Le sujet sur lequel on aurait peut-être aimé faire l'impasse. Mais non. Parce que la Bible en parle. Clairement, cette demande de se soumettre, elle n'est pas tellement d'actualité à notre époque. À quoi nous encourage la société aujourd'hui? À faire ce qu'on veut, à suivre ses envies, à être indépendant, à vivre sa meilleure vie. Les jeunes, ils disent ça maintenant, tu vis ta meilleure vie, toi. Alors se soumettre, à vous imaginer. Moi, je me souviens quand on était un peu plus jeune, ça remonte à quelques années, hein, du coup, hein, excusez-moi, oui, quand on obéissait un petit peu trop rapidement à nos parents, ou quand on rendait un service à quelqu'un, on nous traitait de sous-sous. Je ne sais pas si vous vous rappelez ceux de ma génération là. C'était bien entendu le diminutif de soumis. T'es sous-sous. Donc, par exemple, on joue au foot, un copain sort du terrain pour chercher à boire, on lui demandait s'il peut profiter pour nous remplir la gourde. Alors, s'il a le malheur de le faire, tous les autres disent, ah, le sous-sous. Regarde le sous-sous. Comme si ce service qu'on rendait à l'autre, cette obéissance, elle nous amène à devenir un moins que rien. C'était la bêtise de la jeunesse, je le conçois, mais c'est un peu révélateur de notre époque. Vivre la soumission, je suis désolé, mais ça n'a pas le vent en poupe dans notre société actuelle. Et pourtant, la Bible en parle et nous demande de nous soumettre les uns les autres. Je sais même qu'il y a des versets bibliques, bien sûr, qui ont fait l'objet de controverses, de débats qui me semblent un peu éclairés, parce qu'il y a une erreur qui est faite, c'est de confondre la soumission chrétienne et la domination humaine. Ces versets, ce sont précisément ceux-là qu'on va lire ensemble ce matin. Alors, je vous encourage ouvrir vos Bibles dans Éphésiens 5, ça c'est derrière nous, à partir du verset 20, et nous lirons jusqu'au chapitre 6, verset 9. Chapitre 5. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfin, obéissez à vos parents, dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres, avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maître, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Ce que l'on voit à travers ces versets, c'est que l'idée que nous devons nous soumettre les uns les autres, c'est un principe majeur qui sous-tend toutes les relations qu'un croyant peut avoir. Paul, au verset 21, commence donc par la recommandation, c'est le démarrage du chapitre, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Mais par contre, après, il va décliner cette recommandation. Il va donner des instructions concrètes pour deux rôles familiaux et pour un rôle sociétal que l'on peut avoir et qui sont fondés sur le principe même de la soumission des croyants les uns aux autres. Alors, vous l'avez vu, hein, ces versets traitent de plusieurs types de relations. On va les voir ensemble. On y trouve la soumission dans le couple, la soumission dans la famille, la soumission dans le travail. Et bien entendu, nous parlerons aussi de la soumission au sein de l'Église. Commençons peut-être par le sujet le plus compliqué, soumission dans le couple. Ce n'est pas le plus évident, tellement finalement les propos de Paul ils sont un peu à contre-courant de ce qu'on entend. Mais je pense que la notion de soumission elle est parfois mal comprise. Je vous arrête tout de suite hein, si vous pensez qu'il s'agit de faire le paillasson face à son époux. Ce n'est pas du tout ça. Pour autant, au sein du couple, ces versets nous montrent que le mari et la femme sont effectivement appelés à se soumettre l'un à l'autre, peut-être de façon différente d'ailleurs. Si j'essaie de résumer en deux phrases toute cette première partie, tu peux peut-être revenir sur les... Merci. Pour la femme, ça signifie quoi? Ça signifie d'accepter volontairement l'autorité de son mari en Christ. Pour le mari, cela implique de mettre de côté ses propres intérêts afin de prendre soin de sa femme. Une fois qu'on a intégré ces deux recommandations, moi j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ces versets ils font couler autant d'encre. J'ai déjà entendu hein, que certains n'aiment pas Paul, parce qu'ils le trouvent un peu trop machiste, quelqu'un qui aurait peu de considération pour la femme. Mais pour moi, c'est un faux procès. Hein. C'est même tout le contraire qu'il est en train de faire en écrivant ce passage. Vous savez, la société romaine, elle conférait aux hommes un pouvoir quasi illimité. Et il est fortement probable que les hommes n'avaient pas forcément l'habitude de traiter leurs femmes avec un grand respect, avec énormément d'amour démonstratif, encore moins d'être attentifs en priorité à leurs souhaits. Alors certains ont déformé l'enseignement de Paul en indiquant que Paul donnait une autorité illimitée au mari sur la femme. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Au contraire, il rétablit une relation saine en rappelant l'équilibre par Dieu au sein du couple et en donnant des recommandations mutuelles. Alors bien entendu, il existe de nombreuses situations où les femmes sont dans une extrême difficulté dans leur relation maritale. Ça existe malheureusement, c'est le péché de l'homme qui souffre, il souffre d'un mari autoritaire. Mais par contre, ce que je suis convaincu, c'est que la soumission, c'est rarement un problème dans les foyers où le conjoint ou les conjoints entretiennent une forte relation avec Christ et où chacun se soucie de l'épanouissement de l'autre. Du point de vue biblique, il nous est présenté que l'homme est le responsable spirituel de la famille. Mais être un responsable spirituel, c'est être un serviteur. Les maris devraient servir leurs femmes comme Christ a servi les disciples au point de laver leurs pieds. Un mari qui est sage et soucieux d'honorer le Seigneur ne va pas tirer à son avantage sa responsabilité qui lui est clairement donnée dans ces versets. Et une femme sage et désireuse d'honorer le Seigneur ne cherchera pas à saper ce rôle de son époux et au contraire va l'encourager là-dedans. Vous avez remarqué comment ce passage consacre deux fois plus de mots à montrer aux maris comment ils doivent aimer leur femme qu'aux épouses à se soumettre en réponse ? Certainement parce que l'homme met deux fois plus de temps à comprendre. Mais ça, Paul, il le sait. Et regardez précisément quelles sont les caractéristiques de cet amour. Un mari doit être prêt à se sacrifier pour sa femme. Il doit faire du bien-être. Il doit faire du bien-être de son épouse une priorité. Il doit prendre le même soin d'elle que de son propre corps. Il me semble qu'aucune épouse ne redouterait de se soumettre à un tel mari. Moi, j'apprécie beaucoup le dernier verset que j'ai mis en gras, qui vient clore le sujet de la relation conjugale. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je trouve que chaque mot est bien pesé. Parce qu'il me semble qu'il correspond finalement aux attentes profondes d'un homme et d'une femme. Pour un homme, l'important dans sa relation conjugale, c'est effectivement d'être respecté. C'est un peu dans nos entrailles. Il y a un enseignement sur le sujet au Weekend Momentum où on parle des hommes, où l'homme a un désir de prouver sa valeur. Il y a une question qui le suit un peu tout au long de sa vie qui est « Est-ce que je suis à la hauteur ?» Ce besoin de se sentir respecté dans l'action, de se sentir à la hauteur dans sa mission, c'est primordial. Et d'autant plus par la femme de sa vie. Moi, ça a une énorme portée. Pour moi, si ma femme, elle me dit « Je te fais confiance, David. » C'est OK, on y va, je te suis dans ce choix. Ça me donne des ailes. Ça me donne de la confiance. Alors qu'elle se soumet finalement à mon choix. Je pense en revanche que si la femme peut bien entendu avoir une aspiration à être respectée, c'est pas un problème ça, mais son désir primordial, son désir premier et fondamental, elle est d'être recherchée, d'être choisie, d'être aimée. Certainement qu'une femme est plus sensible à un « je t'aime » qu'à un « je te respecte ». En tout cas, le verset 33, il va dans ce sens. Alors avant de vous dire ça, je l'avais fait valider par Alissa. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez la voir à la fin du culte. Ouais, pas très courageux, le bonhomme. Quand je préparais ce message, je me suis souvenu, pour finir cette thématique-là, d'un conseil qui m'avait été donné juste avant mon mariage. Le conseil, il était ultra simple. Fais le maximum pour que ta femme soit heureuse et que ta femme fasse le maximum pour que tu sois heureux. C'est la clé d'un mariage qui dure une vie. C'est ça qu'on m'avait dit. Ce conseil, c'est finalement le conseil d'une soumission souhaitée, une soumission acceptée, une soumission même désirée parce qu'elle fait du bien à l'autre dans sa particularité et au bénéfice du couple dans son union. Amen. Ça va, il y a eu quelques amen. Le passage ne s'arrête pas aux relations entre le couple. Il parle aussi de la relation avec les enfants. J'irai un peu plus rapidement là-dessus. Si notre foi en Christ est authentique, Cela doit aussi se manifester dans le cadre familial, dans nos relations avec ceux qui nous connaissent le mieux. On peut lire que les enfants et les parents ont aussi des responsabilités qui sont réciproques, des responsabilités mutuelles. Les enfants devraient honorer leurs parents, même si les parents sont parfois exigeants, voire peut-être injustes. Et les parents doivent prendre soin de leurs enfants, même si les enfants se montrent parfois désobéissants ou déplaisants. À nouveau, les uns, les autres. À nouveau, une réciprocité qui d'ailleurs permet d'éviter des syndromes qu'on voit actuellement. Vous connaissez le syndrome de l'enfant roi, mais aussi celui des parents totalitaires. Quand il y a cette relation mutuelle et réciproque, je pense que c'est une des clés pour avoir un équilibre dans la famille. Parce qu'en exerçant la discipline, les parents, ils ont pour but d'aider leur enfant, vous le savez ça, d'enfant à grandir et non à provoquer la colère ou le découragement. C'est un rôle difficile, hein, élever un enfant. Enfin, honorez vos parents. Et cela se passe par une attitude de soumission. Il y en a encore beaucoup des enfants, moi-même je le suis, hein. Une attitude de soumission. Honorez vos parents. Ça conduit à l'obéissance. Ça nous promet en plus d'être heureux. Parce que vous avez vu, c'est sympa. Et père, n'irritez pas vos enfants. Élevez-les en donnant une éducation qui vient du Seigneur. De bons conseils. Troisième relation qui est traitée ici, qui nous exhorte à nous soumettre les uns les autres dans le cadre du travail. Précisément là, c'est l'esclavage. Il me semble qu'on peut projeter ces versets aussi dans le monde du travail. Mais quand même, on parle d'esclavage, donc il faut que j'en parle un tout petit peu. L'esclavage, à l'époque des Romains, hein, quand Paul écrit ça, c'était tout à fait courant. Alors, comme pour la relation conjugale, on pourrait faire un faux procès à Paul. On pourrait lui dire, mais Paul est un défenseur de l'esclavage. Attendez, mais c'est pas Paul qui a inventé l'esclavage. Au contraire, il vivait dans une société où c'était courant, mais encore une fois, Paul, par ses versets, il va révolutionner les relations entre le maître et l'esclave. Pour ceux qui étaient là, c'était au mois d'août, vous vous souvenez quand on a découvert ensemble l'histoire de Philémon, le maître, et Onésime, l'esclave. Paul leur demande de se traiter d'égal à égal en Christ. C'est les droits de l'homme 1700 ans plus tôt. Dans notre passage, Paul recommande aux serviteurs d'obéir, de respecter le maître, de travailler du mieux possible, même en l'absence du patron, comme s'il travaillait pour Christ. Et il demande au maître d'agir de même, réciprocité, en lui rappelant qu'il a aussi un maître au ciel. C'est révolutionnaire. Paul ne transmet pas un message pro-esclavagiste. Il rétablit une soumission mutuelle en positionnant l'esclave et le maître à égalité. À égalité vis-à-vis de qui ? Du Seigneur. Il est là l'étalon. Donc cette réflexion autour du maître et de l'esclave, forcément, elle m'a mené aussi à réfléchir sur le sujet de la soumission dans le travail. Certains le savent, mais je suis manager d'une équipe dans mon métier et j'en ai donc la responsabilité. J'en ai l'autorité pour établir des priorités qui me semblent être les bonnes au moment où je prends des décisions. J'ai aussi l'autorité pour juger des performances des membres de l'équipe au travers de ce qu'on appelle l'entretien annuel. Hein, pour ceux qui sont dans des grosses boîtes, vous connaissez ça. Et pourtant, sans vouloir prendre la grosse tête, je crois que j'applique ces recommandations. Les recommandations de ces versets, en ayant un profond respect pour les membres de mon équipe, en me souciant de leur bien-être au travail, en essayant de les faire progresser, en leur donnant des perspectives. Et je ne vis pas du tout cette attitude comme un fardeau. Hein. Mais au contraire, cette soumission, finalement, que j'accepte, elle me semble bonne pour le bien commun de mon équipe. D'ailleurs, l'entreprise l'a bien compris, parce que depuis 2 ans maintenant, dans notre banque, il y a un nouveau process qui a été mis en place. Il est derrière ce petit dessin que vous voyez, c'est celui qui nous a été envoyé. Ce process, il s'appelle le reverse feedback. Désolé, toutes les nouveautés à la banque, elles sont en anglais. Apparemment, ça fait mieux. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je vais vous expliquer le principe, il est simple. D'habitude, c'est le manager qui évalue les réalisations, les contributions de son équipe
Il juge si le salarié a bien travaillé. Mais avec le reverse feedback, c'est au tour de l'équipe d'évaluer son propre manager. La banque envoie donc un questionnaire anonyme, bien entendu, aux collaborateurs et en leur demandant de finalement juger sur plusieurs thématiques le comportement du manager. On nous demande de juger la communication. Est-ce que le manager est dans l'équité? Est-ce qu'il est disponible pour l'équipe? Est-ce qu'il a la capacité à m'accompagner dans le changement? Etc., etc. Et donc, le questionnaire anonyme est envoyé à mon directeur et moi, je découvre en live les résultats. Cette pratique, elle a des vertus. Elle permet de démasquer des comportements managériaux inadaptés ou en tout cas non souhaités par la banque. Vous savez, il y a le syndrome du petit chef, là. C'est moi qui sais, c'est moi qui ai raison. De toute façon, c'est moi qui commande. Alors, tais-toi et bosse. Ça arrive. Alors forcément, quand vous vous comportez comme ça, les résultats au reverse feedback, ils sont moyens. D'accord ? Donc, la démarche, elle est intéressante. Parfois, elle est même éclairante. Et finalement, ce qui est voulu, c'est que le process conduit le responsable et son équipe un peu à une soumission mutuelle. Par contre, il manque le principal ingrédient de la recette. Il y a une différence majeure entre la soumission demandée par Jésus et celle du reverse feedback. Se soumettre les uns les autres, dans Éphésiens, n'est pas basé sur le mérite, sur le comportement, sur la qualité des actions de l'autre personne. Alors que dans le reverse feedback, le salarié est un juge. Il évalue la performance du manager dans son action au quotidien, et ça fait une différence majeure. Vous savez, les croyants, ils ne doivent pas se soumettre les uns aux autres parce que les autres le méritent. Ils doivent plutôt se soumettre les uns aux autres dans la crainte du Christ. C'est comme ça que ça démarre. Ou parce qu'ils craignent Christ. Pour le manager, le reverse feedback, il peut conduire à la crainte du jugement de l'autre, de son équipe. Vous avez vu que je ne suis pas tranquille quand je vais à cet entretien-là. Qu'est-ce qui va me tomber dessus ? Surtout qu'on travaille, on découvre les résultats avec son propre patron. De même, je sais que les collaborateurs, eux aussi, peuvent hésiter à exprimer vraiment leur ressenti par crainte du retour du bâton. Je l'ai déjà entendu. Pas chez moi, mais je l'ai déjà entendu. Alors que vous avez remarqué que la notion de mérite, la notion de jugement, n'apparaît pas du tout dans Éphésiens. Il n'est pas demandé au mari d'aimer sa femme seulement si c'est une bonne épouse. Pareil, il n'est pas demandé aux esclaves d'avoir du respect pour leur maître seulement si les maîtres sont bons. Alors, je développerai ça dans ma conclusion parce qu'il me reste un dernier type de relation à traiter et pas le plus simple. Car contrairement à l'époux et à la famille, même à son équipe, on ne choisit pas le frère, on ne choisit pas la sœur dans l'église. Alors qu'il ne faut pas oublier que Paul s'adresse avant tout à une église quand il écrit là-dedans. Il écrit aux Éphésiens, ici en l'occurrence, mais il va faire aussi une recommandation quasiment de même style aux Philippiens. On va lire Philippiens ensemble, vous allez le voir. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Je vous le relis. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Waouh ! De mon point de vue, un des aspects qui rend difficile cette soumission dans l'Église, et que chacun d'entre nous, on a des sensibilités, on a des angles de vue, on a des priorités qui nous sont propres. Et des fois, au lieu de se concentrer sur le cœur de ce qu'est l'Église et de Jésus-Christ, c'est à travers ces sensibilités, à travers ces services qu'on peut avoir tendance à vivre l'Église. Et forcément, quand nos priorités, quand nos angles de vue ne semblent pas être pris en compte aussi fortement que ce qu'on peut l'espérer, eh bien, ça peut créer des tensions. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler ? Dimanche 2 novembre, Henri rentre chez lui. Il est satisfait du culte qu'il a présidé. Il avait eu pour consigne de laisser suffisamment de temps aux jeunes pasteurs invités pour qu'ils puissent exhorter l'Église à développer l'amour entre les membres. Thématique du trimestre. La salle était pleine. Les gens ont eu l'heure d'apprécier. Le pasteur l'a remercié pour le beau culte. Michel, en rangeant sa guitare, est un peu tourmenté, car il avait fait l'effort d'envoyer sa liste de chants au président. Et malgré cela, on ne lui a pas laissé l'occasion de finir le culte, en apprenant à l'assemblée le chant « À qui l'est doux de demeurer ensemble » qui lui tenait particulièrement à cœur, vu la thématique abordée. Certes, c'était midi et quart, mais en Afrique, les cultes, ils durent des heures. Et quand même, quand on parle de louange, on peut être un peu souple, non ? Dommage, il a le sentiment qu'on est passé à côté d'un bon moment. Vanessa est fatiguée. Elle adore les enfants et elle prend du plaisir à préparer sa leçon le dimanche matin. Elle sait qu'elle a tellement de choses à apporter à cette jeunesse et elle y met tout son cœur. Mais cette fois encore, le dernier quart d'heure a été compliqué. Les enfants qui s'agitaient dans la petite salle de classe depuis midi, alors qu'elle avait terminé sa leçon. Du coup, elle a dû élever la voix et elle regrette d'avoir fait la police. Ça a terni sa leçon. Elle a besoin de rentrer rapidement et retrouver réconfort de sa famille. À la maison, Émile, son mari, n'a pas tellement la tête à écouter. Il ne comprend pas, il comprend pas. Il devait annoncer le démarrage du parcours de formation qui débute dans un mois. Une formation sur le discipulat. Tellement important pour l'Église qui a besoin de lancer une dynamique dans ce domaine. Alors la venue du pasteur étranger, c'était super, ça avait drainé un max de nouvelles personnes. Il avait fait un PowerPoint canon pour donner envie à des personnes de s'inscrire. Quelle occasion manquée! Et le président, lui, il a fait le choix de privilégier l'annonce du week-end la semaine prochaine, l'annonce du week-end de jeunes. Ce n'est pas au ski que les jeunes ils vont apprendre ce que c'est un disciple. Il a eu envie d'en parler avec Patrick. Mais il avait senti que Patrick n'était pas d'humeur quand on ne lui avait pas permis d'entrer dans la cuisine pour avoir son café, sous prétexte que le culte avait commencé, comme si ça avait pu gêner quelqu'un. Il sait se faire un café sans embêter personne. Et lui, il est à 8 heures pour faire la sono. Ça donne droit à un café quand même. Et puis Stéphane est encore venu lui dire que le son était trop fort. C'en était trop. Julien, lui, est rentré pour la première fois dans l'église. C'était un défi pour lui, mais il ne le regrette pas. Il a été touché par le message plein d'amour du pasteur et par la relation touchante dans la communauté. Et puis la musique était bien forte. Il aime ça. Dynamique. Ça le change de la messe qu'il suivait quand il était petit. En plus, il semble qu'il y ait des activités spécifiquement pour les jeunes. Peut-être il ira au week-end. Mais si le week-end se fait, parce que Philippe est un peu vexé que le trésorier lui demandait un justificatif pour l'achat des courses. Déjà qu'il se donne corps et âme pour ce week-end, priant pour que les jeunes soient touchés, si en plus on lui demande de faire de l'administratif. Rémi ne comprend pas comment les personnes qui s'occupent des enfants ne sont pas plus respectueux. Il prend du temps pour faire le ménage une fois par mois. Et le plus lent, c'est les classes des enfants. En plus, elles sont toutes petites. Ça devrait prendre 5 minutes à la fin. Alors heureusement, il a la chance de croiser le trésorier l'après-midi. Mais il avait l'air un peu stressé, le trésorier. Avec les comptes 2025 à clôturer demain, c'est peut-être étonnant. J'hésite avant de faire ça. Mais mes amis, l'Église, c'est un miracle. C'est un miracle. Semaine après semaine, elle se met en marche, elle travaille, elle sert car nous, on aime Jésus dans notre assemblée. Elle est magnifique quand elle chante ce matin « Oh Dieu, tu es grand ». Nous aimons servir le Seigneur. Nous aimons nous retrouver entre frères et sœurs. Mais quel défi ! Nos propres perspectives, nos priorités individuelles, nos désirs de gloire. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, on a chanté « Brise notre orgueil ». Et dans le verset aussi, c'est marqué. Eh bien, ça peut être source de tension. Alors que mon frère, il a un cœur incroyable. Tous ces gens sont des gens incroyables. Ce sont des gens qui s'investissent, qui se donnent. Mais des fois, il y a des tensions. Il y a peut-être des responsabilités. Il y a peut-être un contexte que je ne connais pas totalement ou que je ne comprends pas. C'est ça qui rend les choses difficiles. Paul et Pierre se sont aussi disputés dans leur ministère. Ils se sont frités. Ça montre la difficulté de la tâche. L'égocentrisme, et même l'égocentrisme dans le service, peut faire du mal à une église. Tandis que l'humilité sincère, elle peut l'édifier. Aux yeux de Dieu, on est tous de simples pécheurs sauvés, par grâce. Mais ce salut nous confère une grande valeur dans son royaume. Nous devons par conséquent renoncer à l'égoïsme et traiter les autres avec respect, avec courtoisie, même si on ne comprend pas tout. Se soumettre les uns aux autres, c'est aussi respecter l'autre dans son ministère, même si on n'aurait pas agi de la même manière. Se soumettre les uns aux autres, c'est reconnaître les dons qui lui ont été donnés. C'est respecter sa façon de penser qui peut être différente. Ça peut être respecter sa sensibilité, sa culture d'église qui peut l'être aussi. Je ne parle pas ici de théologie majeure, hein, mais c'est souvent sur les petits détails que l'église rentre en conflit. Des fois qui ont de l'origine de l'ego, des petits désaccords. Alors que vous voyez dans ces versets magnifiques que Paul met l'accent sur la cohésion spirituelle et il appelle les Philippiens à s'aimer d'un même cœur, dans une unité de pensée. Lorsqu'on œuvre ensemble, lorsqu'on fait preuve de sensibilité ensemble envers des problèmes des autres, on imite Christ. On imite Christ, c'est lui qui plaçait les intérêts d'autrui avant les siens. Et c'est là où on expérimente l'unité. La clé finale et fondamentale, elle se situe dans la suite des versets de Philippiens 2. On va les lire. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en redevenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Comme toujours, la clé fondamentale, c'est l'exemplarité de Jésus sur ce sujet. Considérer les besoins d'autrui comme plus importants que les nôtres nous fait ressembler à Jésus-Christ, qui est l'exemple même de l'humilité authentique. Et je sais que ressembler à Christ, c'est le désir de tous ceux qui sont ici et qui ont choisi de le suivre. Alors souvent, quand ça nous vient et qu'on essaye de justifier un peu notre égoïsme, excusez-moi d'employer ce mot, en évoquant des droits qui nous sont donnés, après tout, je le mérite. Eh bien, il faut se souvenir de cet exemple-là. En tant que croyant, on devrait se comporter différemment et renoncer des fois à nos droits pour le bien des autres. C'est le sacrifice que Jésus a fait, alors que justement, il ne méritait rien. Si nous déclarons suivre Jésus, cela doit changer notre perspective et nous devons aussi nous engager à vivre comme lui l'a vécu. Soyez soumis les uns les autres. Ça nous encourage à nous montrer humbles, à humbles dans le service, même quand le service ne nous procure aucun compliment en retour. Ne devrions-nous pas, nous aussi, être des serviteurs par amour pour Dieu et pour les autres ? Non pas parce qu'on a peur du jugement ou pour avoir une bonne évaluation en reverse feedback. Non, non. Chaque fois que nous sommes confrontés à des situations délicates, souvenons-nous que nous avons le choix de notre attitude. Nous pouvons vivre pour être servis ou chercher des occasions de servir. Le Christ a fourni le plus grand exemple de soumission. Lorsqu'il s'est abaissé pour devenir un homme et mourir sur la croix comme un vulgaire criminel. De la même manière, à cause du Christ et de ce qu'il a fait pour nous, nous devons estimer les autres. Alors à première vue, il peut sembler difficile de nous soumettre ou de traiter les autres comme plus grands que soi. Parce que finalement, ça nous rend un peu vulnérables, ça. Mais réfléchissez-y, lorsque les deux parties traitent l'autre comme étant plus digne d'honneur qu'elle-même, alors vous savez quoi ? Les besoins des deux personnes y sont merveilleusement satisfaits. Dans cette approche, les deux personnes se servent l'un l'autre, se font du bien l'un l'autre, s'entraident l'un l'autre. Moi, il me semble que c'est ça le dessein de Dieu pour l'Église. Un dessein qui est pour moi en tout cas bien plus enthousiasmant que « sois indépendant, suis tes envies et vis ta meilleure vie ». Parce que dans ces conditions-là, c'est l'amour qui se développe. c'est l'esprit d'équipe qui se développe, c'est la communion qui se resserre, et c'est la soumission mutuelle qui finalement va produire ses fruits. En tout cas, c'est mon aspiration pour ma communauté. Ce message, il est pour moi en premier aussi, bien entendu. C'est mon aspiration pour ma communauté, mais c'est aussi mon aspiration pour mon couple, pour ma famille, pour mon équipe au travail. Alors Seigneur, j'ai envie de te dire encore merci ce matin pour cet exemple que tu m'as donné. Et j'espère que vous vous joignez à moi pour demander l'aide du Saint-Esprit, pour qu'il nous aide à vivre concrètement cette relation de soumission mutuelle dans notre belle assemblée. Amen. Amen.